France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Bonjour à tous. Sorti en 1976, quatre fois oscarisé, Les Hommes du Président raconte un âge d'or de l'information, un temps où la presse a gagné ses galons de quatrième pouvoir ou de contre-pouvoir. Voilà pourquoi, en choisissant de revenir aux sources du 7e art, pour cette collection de 10 films qui ont changé le monde, nous l'avons choisi, lui, pour le récit qu'il porte. Ce film, de Alan Pakula, pose des questions par ailleurs toujours d'actualité, celle de l'information, celle de la vérité, du pouvoir et de ses petites et grandes corruptions. Réalisateur de Clot, de À cause d'un assassinat, du choix de Sophie, de Présumé innocent ou encore de l'affaire Pélican, le cinéaste américain Alan Pakula est un des maîtres américains du thriller politique, l'une des caméras phares du nouvel Hollywood. Décédé en 98, son dernier film, Ennemi rapproché, est sorti juste un an avant sa mort. Venu du théâtre, son talent de metteur en scène est indéniable. Pour preuve, Les Hommes du Président, ce film dont nous vous parlons aujourd'hui, sorti donc en 76 avec Robert Redford et Dustin Hoffman, où il parvient à créer du suspense avec une histoire déjà écrite et dont on connaît déjà la fin, le scandale du Watergate. Enfin, à noter que Les Hommes du Président, ce film-là clôt la trilogie de Pakula, dite paranoïaque ou de la conspiration. Alors en quoi ce film a-t-il changé nos regards? A-t-il changé vos regards? On en parle jusqu'à la fin de l'émission avec nos invités.
Je pense qu'ils étaient obsédés par l'idée d'avoir un scoop. Ce que vous apprenez sur le journalisme d'investigation, c'est que les reporters sont obsédés par le scoop. C'est ce qui les maintient en vie. Et je pense que c'est ce qui est fascinant dans le film. Leur obsession devient notre obsession. Et c'est pourquoi les gens disent, c'est difficile de croire que le film a ce genre de suspense lorsqu'on connaît déjà les réponses. Mais je pense que leur obsession nous happe. J'ai toujours trouvé très intéressant d'observer les personnes qui se soucient autant d'un sujet, même si ça peut parfois les rendre fous. Et c'est cette passion qui rend le film si excitant. Leur obsession pour ce scoop vous emporte, et on se dit, oh mon Dieu, ils ont failli ne pas l'avoir.
Le goût du scoop, voire la passion du scoop, nous dit le cinéaste Alan Pakula à propos de son film « Les Hommes du Président ». Avec nous pour en parler aujourd'hui, trois regardeurs. Tout d'abord, le cinéaste Éric Rochant, réalisateur des Patriotes ou encore de Meubus, showrunner de la meilleure série française, Le Bureau des Légendes. Et bonjour à vous, Éric Rochant.
Bonjour.
Levez pas les yeux au ciel. Il y en a d'autres meilleurs que la vôtre? Non. Pas pour l'instant. Le critique de cinéma Laurent Delmas, vous avez consacré un livre à Bertrand Tavernier, Le cinéma et rien d'autre, en 2022, lui-même précédé d'un autre bouquin sur François Truffaut, film par film, précédé encore de Depardieu, hors norme. Bonjour Laurent Delmas.
Bonjour.
Et Bruno Patineau, président d'Arte, auteur avec Jean-François Fogel de Une presse sans Gutenberg, puis seul, tout seul, de La civilisation du poisson rouge et de Tempête dans le bocal. Vous avez inauguré avec S'informer à quoi bon une petite collection d'essais pour les moins de 25 ans chez La Martinière Jeunesse, où vous évoquez Hollywood comme une mine d'or, une mine pourvoyeuse de mythologie toujours présente. On va voir ça.
Vous ne pouviez pas me parler au téléphone?
Woodward dit qu'on est sur table d'écoute.
On doit se méfier.
Bon, entrez.
Non, nous ne pouvons pas entrer.
Woodward pense qu'il y a des mouchards électroniques.
Des mouchards qui les auraient installés.
Ça se fait souvent. Je vous préviens que des vies sont en danger.
Attendez une
Peut-être
seconde.
Même les nôtres.
Qu'est-ce qui s'est passé avec votre source au ministère de la Justice?
Eh bien, sans doute que mes instructions étaient trop compliquées parce qu'il a compris que pour confirmer, il fallait qu'il raccroche.
Oh, Seigneur.
L'histoire est exacte. Haldeman était le cinquième homme qui contrôlait les fonds et Sloan l'aurait dit au grand jury. Il voulait le dire au grand jury.
Pourquoi n'a-t-il pas fait?
Personne ne lui a posé
non,
la question.
Non, personne ne lui a demandé. L'étouffement de l'affaire n'était pas lié à l'effraction. Il visait à protéger toutes les magouilles et tous les grenouillages auxquels s'étaient livrés les services secrets américains.
Gorge Profonde a dit que la vie de certains était en danger.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a dit d'autre?
Que tout le monde est mouillé dans l'affaire.
Vous Vous avez vu les derniers résultats du sondage d'opinion ? La moitié du pays n'a jamais entendu le mot de Watergate. On s'en fout comme d'une guigne. Vous devez être complètement crevé. Bien sûr, c'est normal. Rentrez chez vous. Prenez une douche ou un bain chaud, puis reposez-vous 20 minutes. Une fois d'attaque, rappliquez dardard. On nous fiche des bâtons dans les roues et c'est par votre faute. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Tout ça n'est pas très important. Mais si jamais vous refoutez le bordel, je vous préviens, ça bardera.
Bonjour Bruno Patino.
Bonjour.
Quelle mythologie, quel grand récit véhicule ce film ?
C'est avant tout un des récits fondateurs de la démocratie américaine, en fait. Quand on parle de la presse vue par le cinéma américain, au moins le cinéma américain, on va dire, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est une mythologie qui renforce l'une et l'autre, puisque à la base du contrat, on va dire, que Jefferson établit pour la démocratie américaine, il y a la vérité, et la vérité est un produit, le produit évidemment, notamment de la presse. Et donc, au travers... on va dire pratiquement tous les films à partir des années 40, on voit s'établir cette idée du journaliste, le héros, le chevalier d'une certaine façon, qui va réussir au péril de sa vie à un moment ou à un autre à révéler les actions troubles ou illégales d'un certain nombre de pouvoirs et qui, en les mettant en pleine lumière, va corriger l'exercice du pouvoir par les pouvoirs. Et donc, cette mythologie-là, elle est présente dans beaucoup de films, on pourra y revenir peut-être, mais évidemment, dans Les Hommes du Président, c'est une mythologie qui rejoint l'histoire, puisqu'on parle du scandale du Watergate, donc juste une petite affaire à un moment donné de pose de micro en 72 dans des bureaux qui appartiennent au Parti démocrate, une affaire qui n'attire pas l'intérêt, puisque en fait, on s'aperçoit juste que parmi les gens arrêtés, il y a quelqu'un qui est proche, voire membre de la sécurité du Parti républicain, et puis petit à petit, évidemment, avec un informateur, gorge profonde, le scandale, j'allais dire, de la pose des micros devient un scandale des mensonges d'État, du type d'exercice de pouvoir par le président Nixon à l'époque et débouchera in fine sur la démission de Nixon avant d'être relevé de ses fonctions par l'impeachment. Donc on est vraiment au cœur même de la mythologie du journaliste qui sauve la démocratie américaine au service du peuple, révélant la vérité et permettant au pouvoir corrompu de cesser son action.
Cette liberté, cette vérité portée haut, Laurent Delmas, du coup pour vous, dans le cinéma américain, via Hollywood, quel est le premier film à l'avoir porté ?
C'est drôle parce qu'en général, quand on remonte l'histoire, on trouve toujours un des 10 premiers films muets des Lumières pour dire « tout était là, regardez, on aurait beaucoup de mal à trouver dans les 20 premières années de l'histoire mondiale du cinéma ». Un film sur la presse, la liberté, etc. Non, ce qu'on peut noter quand même, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, en 1931, il y a un film de Melvin Leroy, qui s'appelle Five Star Final, qui est le nom d'une casse en imprimerie, avec Edward G. Robinson, et qui est pas du tout une peinture du journalisme vertueux, c'est au contraire un film très acide sur la presse de caniveau. Et je crois que le mouvement a été assez parallèle, c'est-à-dire que à la fois il y a eu tout ce que vient de dire Bruno Patino sur oui, c'est un des fondements, un des piliers, il faut défendre la liberté de la presse, le journaliste c'est le chevalier blanc des temps modernes, etc. Et puis quand même aussi, dans un certain nombre de films, la claire conscience que le journaliste, ça pouvait être aussi la pire des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui bouscule la vie privée, qui fait des choses illégales. J'attire votre attention sur le fait que dans ce film de Melvin Leroy, le journaliste est joué par Boris Karloff. Et Boris Karloff, c'était juste à l'époque le type qui avait incarné la créature de Frankenstein. Je crains, hélas, qu'il y ait un petit message dans ce nouveau rôle pour Boris Karloff à ce moment-là. Comme quoi, voilà, le cinéma marche souvent sur deux jambes et j'ai l'impression que le cinéma américain, là aussi, pour la représentation de la presse à l'écran, marchait sur deux jambes, c'est-à-dire une jambe vertueuse et une jambe qui ne l'était pas du tout.
Pas du tout. Bon, là, on a un cinéma avec Alan Pakula en défense de l'information, en défense aussi de la liberté de la presse. Et ce slogan du Washington Post que vous rapportez dans votre ouvrage, Bruno Patino, « S'informer à quoi bon ?» nous le rappelle, la démocratie meurt dans les ténèbres et la presse est là pour apporter la lumière. Alors, le réalisateur ne dit pas autre chose, faire jaillir la lumière, advenir la parole, c'est ce qui a retenu son attention à lui dans cette histoire. Et c'est ce pourquoi il a choisi d'en faire un film.
Une chose qui m'a fasciné, c'est comment ont-ils fait pour faire parler leurs sources de cette façon. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, comment ont-ils fait pour leur faire dire tout ça. Et c'est l'enjeu du journalisme d'investigation, faire dire aux gens ce qu'ils sont décidés à ne pas vous dire. Et vous voyez comment ils manipulent chaque personne différemment pour les amener à parler. C'est l'essence même de l'enquête d'investigation.
Voilà. Alors généralement, on commence ces entretiens par rappeler de quoi il s'agit dans ce film, ce qu'il nous montre aussi à l'écran. Éric Rochant, je compte sur vous pour nous aider à faire ce petit bilan avant l'heure, parce que peut-être que certains n'ont pas vu le film, donc l'intérêt c'est de comprendre aussi cette discussion. On a compris l'affaire, le scandale du Watergate, la question des sources qui se posent, et puis ce livre qui est intervenu, qui est sorti un ou deux ans avant et que le réalisateur a choisi d'adapter. À l'affiche, il y a qui, des hommes du président ?
Oui, il y a Dustin Hoffman et Robert Redford, qui sont deux des très grands acteurs de ce nouvel Hollywood dont vous avez parlé, et surtout Dustin Hoffman, qui est la figure de l'anti-héros, qui caractérise énormément ce cinéma-là. C'est-à-dire, avant, on avait les hommes virils, très forts, les héros tout-puissants. Et avec le cinéma américain des années 70... Et Dustin Hoffman, même Al Pacino, Robert Redford aussi d'ailleurs, ce sont des gens qui sont pas très forts, qui sont pas tout puissants, et c'est justement ça qui nous fascine, c'est qu'en fait ils acquièrent leur toute puissance. Je pense à Dustin Hoffman dans Le Chien de paille de Peckinpah, c'est-à-dire qu'ils acquièrent leur puissance peu à peu et qui en fait deviennent des héros. C'est-à-dire c'est des gens qui adviennent comme héros, et je crois que Dustin Hoffman est un de ces est vraiment l'archétype de ces nouveaux personnages. Et en fait, aujourd'hui, quand vous dites que ce film a changé le monde, enfin ce cinéma-là des années 70 est un des cinémas qui a permis la déconstruction de l'homme, justement, par ce passage du héros à l'anti-héros. Alors après, il a fallu encore beaucoup de chemin pour arriver à l'homme dont on voudrait aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est le début d'un chemin.
En tout cas, d'une certaine masculinité telle que le cinéma américain l'a montré à l'écran jusqu'ici. Et un mot de ce duo, la classe américaine, comme dirait votre confrère Azanavicius.
Ce qui est très intéressant, c'est quand même on a un des acteurs considéré comme un des plus beaux du cinéma américain, c'est-à-dire le séducteur, et on a l'autre côté l'anti-séducteur. Hein. Et donc les deux font un couple très intéressant.
En même temps, le séducteur ne s'intéresse absolument pas aux femmes dans le film.
Mais personne ne s'intéresse beaucoup aux femmes dans ce film.
Et l'anti...
Il n'y a pas un grand intérêt pour les femmes dans ce film. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont deux... C'est pas deux débutants, mais c'est pareil, ce sont pas deux héros de la presse, c'est deux personnes qui ont des preuves à faire et qui peut-être par là même arrivent à faire ce que les autres ne font pas.
Si vous me permettez, il y a aussi un juif et un goy, ce qui pour la société américaine n'est pas rien. C'est-à-dire que l'attelage fonctionnait dans la réalité, il est reproduit à travers le casting. Je pense que c'est pas une dimension neutre.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Robert Redford joue Bob Woodward et Dustin Hoffman jouent Carl Bernstein, c'est-à-dire les deux journalistes d'investigation qui ont mené cette enquête et qui sont au cœur du film. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, alors que raconte-t-il ? L'enquête donc de ces deux journalistes du Washington Post sur le scandale du Watergate, ils ont révélé rien de moins que le système d'espionnage organisé par le comité de réélection du Parti conservateur américain qui avait mis...
Républicain,
qui avait mis sur écoute les bureaux de leur adversaire démocrate. C'est un long métrage de fiction, inspiré d'une histoire réelle, on le disait, l'affaire du Watergate. On connaît le début, c'est la scène d'ouverture du film, l'arrestation de cinq hommes en possession de micros espions dans l'immeuble du Watergate, siège du Parti démocrate à Washington. On connaît donc la fin aussi. Rappelez-nous la fin, Bruno Patino, quelles seront les conséquences de cette enquête ?
Alors, la fin, elle est bizarre parce qu'elle est traitée presque par Pakula, et c'est d'ailleurs, à mon avis... le coup de génie qui est le sien, par une sorte d'ellipse. C'est-à-dire que la fin, c'est juste la parution de l'histoire, et en générique arrive la conséquence des années plus tard, hein, faut pas oublier, c'est-à-dire la démission de Richard Nixon.
En 74.
Oui, mais deux ans après. Ouais. Mais là, on parle d'une enquête qui s'étale sur plusieurs mois. Ce que je voulais dire, c'est que la conséquence, elle est vraiment montrée à la toute fin. Et d'ailleurs, les grands films de presse aux États-Unis sont toujours elliptiques sur la conséquence, c'est-à-dire qu'en fait, ça se termine toujours de trois façons. Soit on voit les rotatives, qui tourne et le journal arrive. Et donc on se dit, voilà, la parution enclenche tout le reste, tout ce qui va se passer. Soit on voit juste la conférence de rédaction finale, le coup de téléphone final. Et donc Pacula rejoint un peu cette tradition en disant, bah voilà, le tout c'était de provoquer la lumière sur l'histoire. Et après, la démocratie américaine, naturellement, va faire son ouvrage.
Mais sur l'événement lui-même, en fait... Le Watergate a eu lieu avant l'élection, Nixon a été élu, et en fait, après, il a démissionné. C'est-à-dire qu'il y a eu...
Non, bien sûr, il y a eu 2 ans d'exercice du pouvoir, ouais. C'est tout à fait juste. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'ellipse est faite sur, une fois que la presse a fait son boulot, naturellement, la démocratie va faire son travail. Et évidemment, ces dernières années, les films sur la presse ou sur le journalisme montrent que ça n'est pas tout de publier les choses, mais peut-être derrière, il se passe des choses pas aussi naturelles qu'on le souhaiterait.
On a oublié de préciser, pardon, que l'un était démocrate et l'autre républicain, hein, dans les journalistes. Ça aussi, ça qualifie le tandem. Et ça montre bien que c'est quasiment la société américaine qui s'empare de l'affaire. Ils ont des différences très importantes entre eux.
Donc, le film s'arrête avec juste avant la démission de Richard Nixon, mais le réalisateur, vous l'évoquiez, Bruno Patino, ne se privera évidemment pas d'évoquer les répercussions de cette enquête à la toute fin du film par cette ellipse, par cette astuce de mise en scène absolument géniale, par ailleurs, dont on va vous reparler. Les hommes du président, on va commencer par le titre, puisqu'on essaie quand même de commencer par le commencement. All the President's Men, en anglais, c'est un titre qui rend visible et qui place Éric Rochant au centre de l'histoire des personnages. Alors ça, c'est l'autre miracle de ce film qu'on ne verra jamais.
En fait, c'est le sujet de l'enquête. Les hommes du président, ce sont les 5 personnes qui sont mêlées à ce scandale, qui sont autour du président et en fait qui sont la métonymie du président. Voilà, c'est-à-dire qu'à travers eux, c'est le président qui est... C'est pour ça que c'est lui qui démissionne à la fin. Je voulais revenir un tout petit peu sur justement ces 2 acteurs, parce qu'en fait, le film repose sur le génie des acteurs. Pourquoi ? Parce que Pacula fait souvent des plans, quasi des plans séquences. Hein. On a beaucoup les personnages qui sont pendant une heure au téléphone. Enfin, les scènes ne font pas une heure, mais disons qu'il reste la caméra collée au comédien qui interroge quelqu'un pendant 10 minutes, enfin 5 minutes. Et donc, du coup, les acteurs notent réagissent, sont affaiblis par les réponses, sont quelquefois renforcés, ont une stratégie, et ça, il fallait des acteurs absolument géniaux pour faire vibrer en temps réel. C'est des acteurs qui ont été capables de jouer en temps réel des situations incroyables.
Sur ce titre, quand même, pardon, Laurent Delmas.
Sur le titre, je crois qu'Éric Rochant a beaucoup dit. Il me semble qu'en plus qu'il y a une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on peut penser que les hommes du président...
Ce sont les deux personnages principaux, les deux protagonistes.
Ouais. Ils la battent, voilà. Ouais. Donc évidemment, il y a une polysémie, il y a quelque chose. Mais sur cette complémentarité, j'y insiste, parce qu'il y a quand même quelque chose que Redford a raconté et qui me semble extrêmement drôle, c'est que partant de ces deux personnages, caractérisés différemment, hein, par la vie et par le scénario aussi. Redford a fini par avouer que ils ont chacun des deux appris le texte de l'autre, ce qui ne se fait jamais, et que dans toutes les scènes, ils étaient capables, et ils l'ont fait, que l'un commence une phrase et l'autre la termine. Et ça a déstabilisé considérablement, évidemment, les acteurs qu'ils avaient en face d'eux, mais ça a fondamentalement montré qu'ils étaient en symbiose, tout en étant sur le papier différent. Je trouve que c'est une très belle façon scénaristique ou de mise en scène même de symboliser cette ressemblance-différence.
Bruno Patino.
Oui, juste sur Redford, ce qui est étonnant en fait dans la carrière de cet homme, c'est qu'en 2016, il a fait un film qui s'appelle, je crois en français, Le prix de la vérité, dans lequel il incarne Dan Rather, c'est-à-dire une autre figure mythique, mais cette fois audiovisuelle, de CBS, donc du journalisme américain, et que là, on sera sur la facette noire du journalisme américain, c'est-à-dire celle qui fait des erreurs, celle, on va dire, qui, en voulant abattre absolument sa cible, en l'occurrence le président Bush Junior, commet des erreurs, des impairs ou autres, et ça va se terminer par le départ de Dan Rather. Donc, j'allais dire, le premier journaliste qu'il incarne, c'est ce héros moderne qui sauve la démocratie, et sa dernière incarnation à ce jour journalistique, c'est l'inverse, c'est le héros déchu, et donc ça dit quelque chose quand même du regard que portent les États-Unis sur leur presse.
On va en revenir aussi sur les représentations aujourd'hui des médias en général, du pouvoir de la presse et ce qui a pu éventuellement évoluer. Mais juste pour savoir tous les trois, faire un premier tour de table, qu'est-ce que ce film, à sa sortie peut-être pas, ou plus tard quand vous l'avez vu pour la première fois, il est sorti en 76, je le rappelle, a représenté pour vous? Qu'est-ce qu'il a suscité en vous? Est-ce qu'il a suscité une envie, une carrière de journaliste, Bruno Patino, de critique de cinéma, Laurent Delmas, et pour vous de cinéaste, Éric Rochand, Bruno Patino?
Bon ben moi, c'est une vision comme enfant, pas à sa sortie quand même, un peu plus tard, mais enfant. Et ça vous donne envie de faire ce métier, évidemment. C'est-à-dire que certains veulent être Zorro et d'autres veulent être Woodward ou Bernstein, hein, c'est clair, évidemment. Et c'est pour ça que cette mythologie m'intéresse beaucoup. On oublie souvent que Superman a un métier, hein. Il est journaliste. Et Clark, bah oui, Clark Kent, il est journaliste et on oublie toujours ça. C'est-à-dire que il a l'air d'un mec bizarre, maladroit, etc. C'est Clark Kent et en fait, il sauve le monde et c'est Superman. Et tout d'un coup, vous avez l'incarnation réelle des deux Superman qui ne ressemblent évidemment pas aux hommes forts, comme l'a dit Éric Rochand, qui sont donc accessibles, j'allais dire physiologiquement ou en termes, j'allais dire même professionnels, et qui pourtant vont sauver la démocratie. Donc c'est pas mal.
Et pour vous, Laurent Delmas?
Je l'ai malheureusement vu à sa sortie.
Moi, c'est honnête de le dire et de le confesser.
Voilà, ça c'est fait. Et pour le reste, ben, je pense que c'est compliqué d'aller chercher dans sa mémoire, mais je pense que ça m'est apparu comme ce qui n'est pas sur le papier, mais ce qu'il était fondamentalement pour moi, un feel-good movie. C'est-à-dire que c'est un film qui donne effectivement la pêche parce qu'il fait croire que le bien peut l'emporter, que la vertu peut l'emporter, que on peut détrôner les politiciens véreux, etc. Bon, la réalité montre que c'est plus compliqué que ça, mais quand vous le voyez à, je ne dirais pas à l'âge, comme moi, là, tout d'un coup, ça vous donne effectivement l'impression que le monde peut être changé. Donc ça, c'est formidable.
Éric Rochand.
Moi, je suis né au cinéma, grâce au cinéma des années 70. Je crois que je l'ai vu quand il était sorti aussi. C'est le cinéma qui m'a donné envie d'être cinéaste. Et donc, je pense être encore sous l'influence de ce type de film, de ce type de rapport au réel. C'est ce qu'on appelait aussi le cinéma du réel, c'est-à-dire c'est des gens qui venaient du documentaire ou des reportages télé. D'ailleurs, la façon de filmer vient un peu aussi du reportage télé de l'époque. Et c'est un cinéma aussi, enfin, c'est un film qui a nourri, chez moi qui était ado, un sentiment de révolte. Donc, parce que c'est ce cinéma des années 70, anti-Nixon, anti-CIA, anti-guerre du Vietnam, c'est très important, c'est le cinéma contre la guerre du Vietnam, qui donne envie de faire des films qui parlent du réel, qui parlent de la réalité. Et alors, c'est vrai sans fantasmer, parce qu'en fait, c'est la réalité hein, qui dit que les présidents peuvent tomber. C'est ce qui s'est passé en vrai. Le film ne fait finalement que décrire le rôle des journalistes. Mais les deux journalistes ont fait tomber Nixon. On peut dire, enfin, en tout cas, Nixon est tombé à cause de ce qu'il a fait. Donc c'est ce cinéma-là qui m'a donné envie de faire du cinéma.
Et on peut se dire que Pakula a été un cinéaste référence pour toute une génération. Il a peut-être aussi inspiré un Steven Spielberg pour ses Pentagon Papers, son film à lui sorti en 2017. Est-ce qu'il peut encore inspirer, selon vous, une génération aujourd'hui, sérieusement, pour un jeune de 20 ans? Est-ce que ce film veut encore dire quelque chose ou est-ce qu'il parle totalement d'un monde disparu?
Je pense que la donne a hélas un peu changé avec les réseaux sociaux. On ferait maintenant le portrait de lanceur d'alerte, plus que de Tintin reporter.
Vous dites pas autre chose dans Une presse sans Gutenberg, Bruno Patino, avec l'arrivée d'Internet, des sites d'information. Alors ça, c'était en 2005. Est-ce que vous le pensez encore aujourd'hui? L'influence qu'une profession exerçait a quand même vécu.
Non, mais disons qu'elle a une influence contestée. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué, je pense, paradoxalement, d'avoir un rôle de journaliste aujourd'hui parce que vous êtes noyé dans un torrent, j'allais dire, de messages, de désinformations, d'autres, malaxés par des algorithmes ou autres. Mais la réalité ou la certitude que l'information encore puisse changer quelque chose dans l'exercice du pouvoir, je pense que on peut le douter un peu, mais par quoi on va remplacer ça? Si on veut essayer d'arriver à un exercice, on va dire, un peu éthique et un peu démocratique des pouvoirs. Donc on n'a rien trouvé de mieux. Et pour repartir, puisqu'on parlait de cinéma par rapport à ça, il y a un film qui s'appelle « Jeu de pouvoir, State of Play » de Kevin MacDonald, qui date maintenant d'il y a 7-8 ans, je pense, dans lequel il y avait au sein d'un journal les deux générations. c'est-à-dire une jeune femme journaliste qui tient un blog et qui donc est à plein dans le début des réseaux sociaux, les blogs ou autres, avec de son côté un vieux journaliste qui est revenu de tout et qui est un peu, on va dire, un Carl Bernstein qui aurait pris 20 kilos et beaucoup de rides. Et évidemment, montre à quel point la nouvelle génération de journalistes a un peu besoin de l'ancienne, mais l'ancienne a besoin de la nouvelle. Et donc, c'est cette idée que ces deux formes d'information ne sont pas si éloignées l'une de l'autre et peuvent finir quand même par, là aussi, exercer leur rôle de ce qu'on appelle aux États-Unis monitorer les pouvoirs, donc contrôler les pouvoirs, ne pas être un pouvoir en tant que tel, mais monitorer les pouvoirs. Donc oui, non, je pense que ces films appellent encore quelque chose, mais effectivement, dans le côté, j'allais dire, naturel, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il suffit de publier une information pour que sa publication soit performative et régule à elle-même la démocratie. On voit qu'à peu près dans toutes les séries aujourd'hui qui parlent de journalisme ou de presse, on voit que c'est le début du boulot. C'est-à-dire que vous publiez quelque chose, encore faut-il que ça soit pas noyé, que ça soit vu, que ça soit cru, que ça puisse ensuite engendrer d'autres réactions de contrôle. Mais est-ce que ça parle d'un âge d'or? J'en sais rien, mais peut-être d'un âge où c'était possible, et je crois que quand même ça appelle encore aux générations nouvelles, ouais, bien sûr.
Et ça montre le travail de la rédaction qui était vraiment le cœur battant de l'information. Il la filme, Alan Pakula, comme une ruche. Il montre aussi les hiérarchies et cette fameuse figure de l'enquêteur, du journaliste d'investigation qui est à l'honneur. Un journaliste d'investigation d'ailleurs qui prend le pas dans cette hiérarchie qui est racontée sur le journaliste politique qui va se voir passer sous le nez ce scoop-là. Alors on va écouter un autre journaliste d'investigation français cette fois, Fabrice Lhomme, en 2012, qui revient à la source de l'investigation anglo-saxonne.
Et c'est vrai qu'il y a une forme de tradition d'investigation dans la presse anglo-saxonne. Il y a deux paramètres intéressants à relever. Le premier, c'est qu'il y a probablement plus, dans la culture d'ailleurs anglo-saxonne, que dans la culture française ou latine, une attention extrême portée au recoupement des sources. C'est-à-dire que les Latins vont plus facilement dire « bon, quelqu'un m'a dit un truc, tiens, je vais le répéter ». Alors que la culture journalistique anglo-saxonne et la culture, peut-être liée au protestantisme aussi, mais il y a une volonté d'être plus méthodique, d'être plus arithmétique. J'ai quelque chose, bon, dont acte, c'est pas suffisant. Je vais vérifier, revérifier, recouper, re-recouper.
Ça marche?
Qu'est-ce que tu fais?
Je peigne ton article.
Tu quoi?
Je le peigne, je te dis.
Qu'est-ce qui ne va pas?
Ah oui, rien, c'est extra.
Alors pourquoi tu fais ça si c'est extra?
Je fignole un peu, c'est confus, tu vois.
Je peux le reprendre?
Il y a, c'est que ce n'est pas abouti.
En tout cas, c'est abouti dans ma tête.
Ah, et sinon, en lisant ça, je ne sais pas si Hun travaille pour Colson ou Colson pour Hun.
Est-ce que je peux le reprendre?
Et certaines de tes conclusions sont
je peux le reprendre?
Oh, tu sais, moi, je ne cherche pas la bagarre.
C'est pas mon genre non plus, figure-toi.
On m'a dit que t'étais au journal depuis 9 mois, tout et pour tout, alors.
Qu'est-ce que ça a à voir avec mon article?
Moi, tu vois, j'ai commencé dans le métier à 16 ans.
Mais quel rapport?
Je veux seulement que tu acceptes d'abord de lire le mien et ensuite de relire le
Montre-moi
tien.
Montre-moi le tien, alors.
Je suis passé devant la corbeille, j'ai jeté un coup d'œil, ça m'a paru embrouillé. Alors j'ai décidé de peigner un peu. Ton premier paragraphe doit être bien plus clair. Si tu veux que le lecteur suive les grandes lignes, tu ne parles de Colson qu'au début du troisième paragraphe. Je crois que le mien est meilleur, mais lis-le d'abord. Si tu penses que ta copie est meilleure, on la file au desk. Moi, j'ai monté Colson au premier paragraphe. Il est expert conseil à la Maison Blanche et personne ne le
sait. Tu as raison. Le tien est meilleur. Fais les choses bien tant qu'à faire. Tiens, voilà mes notes. Gonfle si tu veux, mais gonfle avec du concret. Je critique pas ton boulot, tu sais. Ce qui m'a choqué, c'est le procédé.
Éric Rochon, on peut dire que c'était pas facile à filmer, mais quand même, visuellement, c'est un très beau film sur le travail d'une rédaction, sur le travail d'un journal, sur les outils aussi du journaliste, avec toujours ce téléphone fixe, avec son cadran rotatif, son carnet, son stylo, ses feuilles volantes, éventuellement un bon rouleau de papier toilette quand on n'a pas de bloc-notes sur soi pour travailler, la manière d'établir aussi la preuve, la question de vérifier ses sources. Ça, Alan Pakula l'a filmé, et c'est peut-être la première fois d'une manière très singulière, hein, au plus proche de ce travail-là, très artisanal du journaliste.
Oui, c'est vrai. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a l'impression que c'est un film qui a été fait aujourd'hui et qui veut faire comprendre aux spectateurs d'aujourd'hui comment on faisait à l'époque. Et ça veut dire qu'il insiste, mais c'est très intéressant quand même, sur comment être contemporain de sa propre époque et comment savoir aujourd'hui, par exemple, décrire le monde dans lequel on vit pour que les gens d'aujourd'hui comprennent dans le monde dans lequel ils vivent. Et c'est quand même intéressant qu'il insiste comme ça à l'époque sur ce qui nous maintenant nous fascine. C'est-à-dire, effectivement, les coups de fil, il insiste énormément sur la façon de prendre des notes, comme alors que nous, maintenant, en fait, on enregistrerait le son. Et c'est des gens qui prennent des notes sur des calepins ou sur des morceaux de papier, comme si... Mais en fait, c'est leur façon d'enregistrer. Ouais. Et la façon de téléphoner et de se servir de téléphone, et donc du bloc-notes, ça, c'est marrant, c'est parce qu'en fait, il insiste dessus, que ça nous fait comprendre à nous comment c'était à l'époque, et ça nous fait même vivre, même presque physiquement, ce que ça voulait dire, de prendre des notes au téléphone, à toute vitesse, comme ça... Mais il le fait à l'époque, c'est-à-dire lui-même est fasciné par sa propre époque, il est fasciné par la façon qu'ils ont de fonctionner. Je vais revenir quand même sur les films sur l'analyse, il y en a un qui est l'écho de ce film, qui est She Said, de Maria Schrader, qui est donc deux journalistes, qui contestent de la même manière qu'ils veulent faire advenir une parole, mais pour en fait, en tant que quatrième pouvoir, c'est-à-dire en tant que contre-pouvoir, mais non pas du pouvoir politique, mais du pouvoir financier, disons, puisque c'est l'affaire Weinstein. Et donc ça, entre ces deux films, je pense qu'il fit effectivement, il y a deux époques différentes. Et c'est intéressant de savoir quelles peuvent être les différences. Parce qu'en fait, on parle quand même du quatrième pouvoir. C'est-à-dire d'un pouvoir qui est censé être un pouvoir. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de la presse, c'est un réel pouvoir. C'est un pouvoir dont on peut d'ailleurs abuser. Mais le quatrième pouvoir, c'est un pouvoir qui est indépendant du pouvoir politique, du pouvoir judiciaire, etc. C'est un pouvoir indépendant. Et les hommes du président, c'est quand même aussi, finalement, une ode à ce qu'est le quatrième pouvoir en tant que tel, c'est-à-dire un pouvoir indépendant.
Et c'est un monde, vous venez de l'évoquer, en tout cas aussi dans ces années-là, à travers l'exemple de She Said que vous avez donné, Éric Rochant, dans les années 70, où l'information est quand même une affaire d'hommes. En 2017, ce sont deux femmes journalistes de la rédaction du New York Times, qui ont fait, elles, trembler Hollywood en faisant éclater cette affaire Harvey Weinstein. Et ce qui est intéressant, c'est que pas grand-chose, vous avez raison, a changé. Hein. Le portable a remplacé éventuellement le téléphone fixe, l'ordinateur a remplacé la machine à écrire, mise à l'honneur dans les hommes du président. Mais pour le reste, on voit le travail de la rédaction, on voit les mêmes open space, on voit la peur de parler, on voit les portes qui se ferment, on voit des journalistes surveillés, menacés, le courage aussi des victimes qui acceptent de parler pour un plus jamais ça. Et celui du journal, son courage de publier toutes ces infos-là. 2022-1976, She Said de Maria Schrader, sorti à l'automne dernier, et peut-être le pendant parfait, 40 ans plus tard, des hommes du président. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Delmas ?
Oui, on peut dire ça comme ça.
Mais le pendant féminin ?
Le pendant féminin, oui, alors on peut presque peut-être penser que c'est une révérence un peu à l'air du temps, un peu trop marquée, mais puisque effectivement les hommes du président étaient à ce point-là virilistes, il est bon que les choses soient rétablies. Je n'ai pas les statistiques... sur la profession de journaliste, je peux pas vous dire si ça correspond à une réalité ou pas, mais en tous les cas, c'est une certitude. Les deux films ont quand même en commun quelque chose qui est de l'ordre de l'intervention du cinéma, c'est que les deux journalistes des hommes du président, eux, dans leur esprit, dans leur livre, au début, ne voulaient pas se mettre en scène. Ils voulaient raconter l'enquête. Et c'est le cinéma qui les met en scène. Et ça, je trouve ça évidemment très très intéressant, parce que pour le coup, même si il n'y a pas, et heureusement, grand-chose sur leur vie privée, par exemple, parce que alors là, ça aurait été abominable. Bon, même si ça ne joue pas cette corde-là, le cinéma quand même dit, oui, mais attention, moi, je peux pas faire quelque chose qui soit peut-être trop désincarné. Il me faut deux truchements, il me faut deux médiateurs. Et les journalistes sont des médiateurs. Et She Said reprend, évidemment, ce même procédé. Et je trouve c'est intéressant que Redford, parce que c'est sa volonté, soit allé, non pas contre les deux journalistes, mais leur ait dit, il faudra changer ça. Il faut faire en sorte que vous soyez au centre des choses et qu'on vous voit travailler, on vous voit faire tout ce que disait Éric Rochant, et non pas simplement l'enquête se dérouler.
Quand on les prend par les couilles, ils nous appartiennent corps et âme. Ils bandent pour son boulot, dit aussi le rédacteur en chef à propos de son journaliste. C'est peut-être le langage qui était employé dans les rédactions à cette époque-là. On va réécouter un extrait des hommes du président.
Dis donc, tu sors pas avec un type qui travaille au comité d'élection ?
Non, c'est fini.
Mais tu es sorti avec lui, non ? Je crois que vous étiez fiancé, non ?
Oui.
Et tu as rompu ?
Et alors ?
Tu l'as échappé belle.
Écoute, on veut la liste des employés du comité. Tu crois que c'est...
Vous êtes sérieux?
Bah oui, pourquoi?
C'est personnel.
Et comment ça, tu viens de nous dire que c'est fini?
Ce que vous demandez, c'est que j'utilise un garçon que j'aime beaucoup.
Non, c'est pas ça. On ne demande pas de l'utiliser, seulement de nous aider. On ferait pareil pour toi.
Pour avoir cette fameuse liste, il faut que je le revoie et je ne veux plus jamais le revoir.
Tu es sûr qu'il faut que tu le revoies?
Évidemment.
Mais pas penser de le revoir comme ça, si tu lui donnes un petit coup de téléphone, histoire de prendre un verre avec lui, de voir ce qu'il en pense. Tu nous as dit que c'était fini entre vous. Alors qu'est-ce que tu as à perdre?
On n'a rien dit. Non, on ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit qui puisse se mettre dans l'embarras. Tu n'as pas envie de faire. Oublie.
Bruno Patino, vous allez me dire je suis sot, politiquement correct, sot, post-MeToo. Mais enfin, il fallait quand même rendre hommage à la seule femme du film, cette journaliste, qui par ailleurs, pour obtenir ces informations, et c'est bien souligné, a entretenu quand même une liaison avec un mec du gouvernement, dans mon souvenir.
Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à... Qu'est-ce que vous voulez
vous la défendiez
à ça que la défendre... On peut dire que dans la réalité, le Washington Post était dirigé par une femme.
Ah,
oui,
attention, à ce moment-là.
Le publisher était une femme. L'éditeur était un homme.
Oui, mais la responsable juridiquement devant la loi, c'était elle. C'est-à-dire que c'est elle qui pouvait être inculpée.
Mais non, mais ce qui est tout à fait juste, et on voit bien d'ailleurs le film de Spielberg, puisqu'il parle des Pentagon Papers, donc de... En fait, c'est 71, hein, donc quelques années avant le Watergate, la met en scène. Après, les historiens sont plus ou moins d'accord sur le rôle qu'elle a joué comme ayant le rôle central. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, si on est purement dans la, j'allais dire dans les organigrammes de journaux, en passant de l'homme à la femme, si j'ose dire, on est passé du directeur de la rédaction à la propriétaire du journal. Et il y a quand même quelque chose qui est dit en disant, voilà, celui qui prend les risques, si j'ose dire, dans Les Hommes du Président, c'est le directeur de la rédaction. Celle qui prend les risques dans Pentagon Papers, d'après Spielberg, c'est la directrice de la publication, c'est-à-dire la propriétaire du journal, incarnée par Meryl Streep. Après, on peut faire plein d'hypothèses sur ce déplacement.
On continue avec peut-être, si vous le voulez bien, on évoquait la relation très forte entre les deux hommes, entre ces deux journalistes, celle qui s'est nouée au fil de cette enquête, mais aussi entre les deux comédiens qui les ont incarnés, Dustin Hoffman et Robert Redford. On vous a demandé de bien vouloir interpréter, traduire pour nous un échange entre le vrai Bob, qui sera incarné dans votre voix, Laurent Delmas, entre le vrai Carl, qui sera incarné dans votre voix à vous, Éric Rochant, et Robert Redford himself, en Bruno Patino, acteur dans le film, mais aussi producteur.
Quand Carl et moi avons commencé à travailler sur l'affaire du Watergate, immédiatement c'est devenu clair pour moi que ce gars était dans le milieu journalistique depuis une douzaine d'années, ou un truc comme ça, et comprenait que le Watergate était une bonne histoire. Il était très compétitif.
Au début, aucun de nous n'avait beaucoup d'affection ou de respect pour l'autre, mais tout ça a changé.
La balance, l'équilibre, l'alchimie entre les deux est bonne, très bonne. Je pense que ce sont leurs différences qui ont créé l'entente pour rendre cette histoire possible.
L'enquête du Watergate était surtout une enquête policière. Vous avez un crime, des gens arrêtés pour ce crime, et vous devez trouver tout ce que vous pouvez pour eux.
C'était parfait. On est à la frontière dans le travail qu'ils ont mené tous les deux, à la frontière du journalisme et de l'enquête policière, hein, ce dont il témoigne dans cet extrait que vous avez parfaitement interprété tous les trois. Et c'est vrai, est-ce qu'à ce moment-là, les journalistes tiennent un rôle que d'autres ne respectent pas? Ce qui est intéressant, c'est que parmi les cinq suspects de cette affaire, l'un a travaillé pour le FBI, puis pour la CIA, et on se rend compte que finalement, cette mission de justice, elle est portée aussi par les journalistes. Éric Rochant.
Alors, ce qui est, moi, je trouve fascinant, et c'est là où ça peut rejoindre les réflexions qu'on peut avoir sur le monde, enfin, aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est une fiction sur des gens qui recherchent la vérité. C'est-à-dire que cette recherche de la vérité de ces deux journalistes, obsessionnels, hein, rigoureuse, puisqu'on leur tape sur les doigts quand finalement ils n'ont pas assez de sources, qu'on leur tape sur les doigts quand ça ne se recoupe pas assez. Ça
dangereuse aussi, parce qu'ils sont surveillés.
Oui, dangereuse. Ouais. Et donc, cette recherche de la vérité, c'est l'objet d'une fiction. C'est-à-dire, c'est ça l'histoire. C'est ça qu'on suit. Et donc, aujourd'hui, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est témoin de ce cinéma de l'époque où la vérité était finalement, c'était ce qu'on appelle le MacGuffin, c'est-à-dire l'objet du désir. Donc, et tous les personnages sont finalement sont mobilisés, arraisonnés par cet objet du désir, qui est la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité, c'est pas tellement l'objet du désir. Maintenant, on pourrait dire que on pourrait faire une fiction du déni ou de la recherche de la non-vérité. Donc ça, c'est intéressant pour passer d'une époque à l'autre. C'est même assez vertigineux, je trouve.
C'est une quête de vérité à travers ce film et à sa mort, celle d'Alan Pakula. Robert Redford dira « Ce qu'Alan et moi partageons, c'est justement cela, un sentiment de paranoïa. Où était la vérité hein ?» Cette quête-là, on la retrouve aussi dans les mots de Ben Bradley, qui est le big boss du Washington Post. Une quête de vérité partagée par les journalistes et par le réalisateur.
En ce qui concerne ce qui se passe actuellement, les Américains ont exprimé par voie de sondage leur manque de confiance dans le président, 53% la semaine dernière, 40% croient même cette semaine qu'il n'a pas dit toute la vérité. Est-ce que Richard Nixon est en danger aujourd'hui à cause de vous ?
Bon, il y a sa terme de 3 ans et 10 mois encore à faire. Non, il n'est pas en danger. Il a des problèmes maintenant qu'il n'avait pas il y a 5 mois. Ça sera pour lui plus difficile de conduire les relations avec le Sénat, le Congrès, avec le peuple américain.
Vous êtes, Ben Bradley, l'homme qui a fait chanceler Richard Nixon et qui le fait encore chanceler aujourd'hui.
Ce n'est pas moi, ce n'est pas même le journal, c'est lui-même qui se fait ses coups. Ce qu'on a fait, c'est de publier la vérité.
Demain, Richard Nixon risque-t-il de tomber avant la fin de son mandat ? Est-ce que vous croyez à la démission de Richard Nixon ?
Non, pas maintenant. Mais je ne sais pas toute la vérité encore.
La vérité, c'est votre seul but ?
Oui, vraiment. Je suis très sérieux là-dessus. Je n'ai pas d'autre but. Je n'ai pas d'autre raison d'être, d'ailleurs.
Homme politique, vous auriez aimé l'être ?
Non, c'est pas pour moi, ça.
Il a plus de pouvoir là où il est, Ben Bradley peut-être. Au micro d'Yves Mourouzi en 1973, un an seulement après l'affaire du Watergate. Bel exemple d'intégrité quand même, non ?
Oui, je pense que la vérité, je rebondis à la fois sur votre question et les propos d'Éric Rochant. Il faut bien voir que Jefferson reprend une des théories qu'on appelle le free trade of ideas, c'est-à-dire l'idée que dans le marché des idées, la vérité l'emporte toujours sur le mensonge. Il y a cette idée positiviste très forte aux États-Unis, qui est à la base du premier amendement, c'est on a le droit de tout publier, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, mais la bonne monnaie qui chasse la mauvaise. C'est-à-dire que si vous publiez les mensonges et la vérité, à la fin, la vérité l'emporte. Et donc, toute cette structure, j'allais dire, qui nourrit le premier amendement, la presse américaine, et qui est reprise dans ce film-là, c'est qu'effectivement, l'important, c'est de publier la vérité parce qu'à la fin, même si la vérité est entourée de mensonges, c'est la vérité qui l'emporte. Dans cette idée qui vient du XVIIIe siècle anglais, puis qui est repris donc par Jefferson aux États-Unis au moment de la rédaction de la Constitution nord-américaine. Et aujourd'hui, évidemment, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Éric Rochant, cette idée-là, que dans le free trade of ideas, dans ce marché libre des idées, c'est automatiquement la vérité qui l'emporte. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis plus sûr que beaucoup de gens signeraient sur ce papier en disant à partir du moment où le mensonge cohabite avec la vérité, c'est forcément la vérité qui l'emporte. On n'y croit plus beaucoup et c'est ça qui a changé parce qu'on regarde ce qui se passe et on voit bien que d'une certaine façon, il y a plus d'amplification et d'accélération par le mensonge que par la vérité. Mais tous ces films-là sont nourris de cette doctrine-là, et Bradley, Ben Bradley est l'incarnation même de ce journaliste qui dit « L'important, c'est qu'on publie la vérité, parce qu'une fois qu'on l'a publiée, elle fait naturellement son travail. »
Et ça se voit dans cette magnifique séquence d'ouverture et de fin qu'on évoquait avec ces caractères d'imprimerie qui pilonnent littéralement la feuille. On quitte l'ère du soupçon et du mensonge avec cette image-là. Hein. La vérité semble inscrite réellement en noir, noir sur blanc. Et ce n'est plus totalement une machine à écrire, c'est comme une machine à graver dans le marbre, hein, ce que révèle aussi cette séquence-là. Mais vous avez évoqué la question du complot, la théorie du complot. Est-ce qu'il fallait quand même pas à ces deux journalistes une bonne dose de parano pour avancer dans leur enquête, alors qu'au début, ils ont quand même pas l'once d'une preuve, voire un petit fond complotiste ?
ils sont sidérés hein, de ce qu'ils apprennent. Ils sont sidérés, impressionnés, intimidés par ce qu'ils découvrent. C'est ce qui prouve d'une certaine manière qu'ils n'ont pas, ils n'anticipent pas et ils n'ont pas finalement de fantasme du complot. Et on pourrait dire que c'est ce type de films qui ont dénoncé la CIA, qui ont dénoncé les mensonges du gouvernement de Nixon et les mensonges autour de la guerre du Vietnam, etc., que c'est ces films qui sont finalement les pères des théories du complot. Sauf que la différence entre la théorie du complot et la recherche de la vérité, c'est que les théories du complot, en fait, satisfont toujours le fantasme. Alors que la vérité, en fait, vous frappe là où vous attendez pas. La théorie du complot, c'est toujours dans le sens de votre désir, dans le sens de soit de votre crainte, soit de votre désir, mais c'est jamais surprenant. La vérité, elle arrive à être surprenante. Je voudrais juste terminer sur l'idée que effectivement aujourd'hui, ce statut de la vérité est extrêmement différent, et donc les films peuvent pas être de la même manière, mais je pense aussi que c'est parce que la vérité n'est plus opposée au mensonge, mais opposée à la fiction. Et que parce que c'est opposé à la fiction, du coup, elle perd son statut de toute puissance, puisqu'en fait, elle n'est considérée maintenant que comme une fiction parmi d'autres.
Il est peut-être possible que ce soit la morale de l'homme qui a tué Liberty Valance, qui est en train de triompher, imprimer la légende. C'est ça qu'on dit dans ce film-là, pour dire peu importe la vérité.
C'est pas tout à fait ce que dit John Ford.
Ah, c'est ce que dit en tout cas un personnage, c'est pas ce que dit John Ford, mais c'est ce que dit un personnage, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Ford, non pas y adhère, mais en tout cas le montre, et le montre très très fort. Je crois qu'une fois de plus, on est bien dans cette dichotomie-là du cinéma américain qui a toujours veillé en quelque sorte à ce qu'il n'y ait pas une sanctification totale de la figure du journaliste, parce que le moins qu'on puisse dire, et Ford le savait aussi, c'est que la presse américaine n'est pas angélique à aucun point de vue.
Est-ce qu'on a le droit d'avoir une opinion divergente sur l'homme qui tue à Liberty Valance, qui est un des plus grands films de l'histoire du cinéma américain de mon point de vue?
1952.
Je pense que quand, effectivement, puisque l'histoire, hein, c'est ce jeune sénateur dont on devenu homme politique, respecté, en course pour la vice-présidence, dont on pense qu'il a tué l'homme qui sadisait tout un village. Et à la fin, on voit effectivement, il avoue que ça n'est pas lui qui l'a tué, mais John Wayne. La métaphore, elle peut être prise moins sévèrement pour la presse que vous ne la prenez, à mon avis, parce que je pense que John Ford essaye de montrer que l'Amérique, en réalité, s'est fondée non pas sur le droit, puisque le jeune politicien est avocat à l'époque, mais sur l'usage raisonné de la force, qui est John Wayne, par opposition à Lee Marvin, qui est Liberty Valance, le méchant. Et que la presse participe à l'élaboration de cette légende, comme quoi une démocratie, ça se fonde sur le droit, et sans montrer que ça se fonde sur l'usage, à un moment donné, raisonné de la force. Et que la presse peut être vue, en tout cas dans ce film-là, comme aussi l'élément qui amène, j'allais dire, de la force au droit. Et que c'est cette légende-là qui amène de la force au droit. On n'est pas tout à fait chez Billy Wilder, quand effectivement Kirk Douglas est un journaliste là, totalement pourri, et qui effectivement change totalement le sauvetage de gens en danger pour vendre du papier.
Voilà, désaccord. Mais je ne peux pas vous laisser continuer à débattre de Liberty Valance alors qu'on est là pour parler des hommes du président. Il faut quand même qu'on tienne aussi notre ligne et notre feuille de route, parce qu'on n'a pas encore évoqué Gorge Profonde. Alors c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure d'un monde disparu, ce n'est pas celui de la collusion, de la corruption, du secret des affaires. Il suffit de voir encore aujourd'hui le nombre de fuites de documents confidentiels, mais peut-être celui d'un journalisme d'investigation assez fort pour faire trembler les États, celui d'une presse forte, des rotatives qui tournent à plein régime. Les héros, aujourd'hui, nous disiez-vous, Éric Rochant, ne sont plus les journalistes, peut-être plutôt les lanceurs d'alerte, Chelsea Manning, Edward Snowden, Julian Assange, Erin Brockovich. Et d'ailleurs, le cinéma, Hollywood, n'a pas oublié de les rendre héroïques, tous à leur manière. Deux films rien que pour Snowden. Snowden en 2016 par Oliver Stone, et Citizen Four, c'était son pseudo. Film documentaire de Laura Poitras. Mais quand on tape lanceur d'alerte célèbre sur Google, le premier nom qui sort, c'est celui de Gorge Profonde, l'informateur de nos deux journalistes dans le scandale du Watergate, dont l'identité est restée secrète jusqu'en
2005.
On va écouter Alan Pakula raconter sa rencontre avec celui qui a donc été nommé, alias Gorge Profonde.
La première fois que j'ai rencontré Bob Woodward, lorsque je suis rentré en Californie, tous mes amis m'ont appelé et m'ont demandé « Alors, tu sais qui est Gorge Profonde ?» Et je répondais « Non ». Je devais faire en sorte que Woodward ait confiance en moi, parce que j'allais faire un film inspiré de la moitié de sa vie. Et je ne me voyais pas arriver et dire « Comment allez-vous, Bob ? Vous pouvez me faire confiance et me révéler l'identité de Gorge Profonde. » Nous avions un arrangement, je lui ai dit « Écoute, Bob, je ne veux pas savoir qui est Gorge Profonde, ce qui est sûrement mon plus grand mensonge, mais je ne pense pas qu'il allait me le dire de toute manière. »
« Je dois mener ça à ma façon. Vous me direz ce que vous savez et je confirmerai. Je vous maintiendrai dans la bonne direction si je le puis, mais c'est tout. » Ce qu'il faut, c'est pister l'argent.
Pister l'argent, suivez l'argent, c'est quand même la réplique phare de ce film, non ? Éric Rochant, Laurent Delmas. Gorge Profonde, par ailleurs, ce pseudo vient d'un film aussi ?
Le film
pornographique. Ça n'a rien à voir ?
Oui,
mais c'est un lien, ou pas ?
Je pense que ça peut avoir un lien, vu l'importance de ce film.
Pardon, mais c'est ce que j'ai lu.
Mais dans la société américaine, non, mais c'est un lien. Le Mark Felt en question, puisque c'est son nom, dévoilé par lui-même en 2005, c'est lui qui a vendu la mèche, en quelque sorte, était effectivement quelqu'un du sérail. Enfin, c'était même un second d'Edgar Hoover. C'est dire s'il venait de loin dans la manipulation et dans l'escroquerie et d'espionnage, mais... Donc oui, c'est une dimension évidemment très 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 importante. Ça n'enlève rien au film, hein, le fait de savoir bien des années plus tard l'identité, parce que en regardant le film, on ne doute pas un seul instant qu'il y a bien quelqu'un, que ce quelqu'un est intégré dans l'appareil d'État et que voilà, ça correspond bien à la réalité des choses. Il y a peut-être, pardonnez-moi, une chose qu'on n'a pas dite jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, c'est que Redford est producteur du film. Alors pardon, autant pour moi.
Dites, comme vous dites.
Mais non, pardon. Non, mais je pense que c'était une dimension évidemment très importante, parce que son discours à lui était de dire si je n'avais pas été producteur, et en sous-texte, si un démocrate n'avait pas été producteur de ce film, Hollywood ne l'aurait pas fait. En tous les cas, il ne l'aurait pas fait comme ça, il n'aurait pas mené jusqu'au bout, il n'aurait peut-être pas sorti, etc.
Et sérieusement, il a été compliqué à faire ce film en 74, puisque sa sortie c'est 76. Ça a été facile à monter ou pas, on le sait ?
Oui, je crois qu'il n'y a pas de difficulté dès lors que Redford décide qu'il en sera le producteur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les choses se font comme il le souhaite, avec un décor reconstitué, enfin des choses comme ça, mais un casting qu'il maîtrise. Non, à partir de là, Redford est suffisamment une personnalité importante du cinéma américain pour que, effectivement, il puisse échapper un peu aux fourches codines d'Hollywood.
Éric Rochant.
Alors oui, Gorge Profonde, c'est pas un lanceur d'alerte, hein, c'est une source, c'est pas pareil. Enfin, je crois, hein, c'est pas un lanceur d'alerte. C'est ce qu'on appelle une source.
Moi, je vous ai donné la réponse de Google. Hein,
oui, mais en fait, c'est pas un lanceur d'alerte.
J'ai pas vérifié mes sources.
Pour donner la différence avec le lanceur d'alerte, par exemple, un grand film sur un lanceur d'alerte, c'est The Insider de Michael Mann. Ça, c'est un lanceur d'alerte sur les méfaits du tabac et quelqu'un qui.
Ça, c'est même votre film préféré, vous pouvez.
C'est mon film préféré. Ah voilà. C'est un de mes films préférés. Non, mais les hommes présidents aussi. Mais voilà, c'est la différence entre la source et lanceur d'alerte. Et c'est pas tout à fait la même chose.
C'est tout.
C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci d'avoir encore corrigé l'animatrice. Donc on va quand même s'interroger pour les quelques minutes qui nous restent sur la réception du film, à la fois aux États-Unis et puis peut-être en France. On va commencer par ça. Vous allez voir, les critiques du Masque et la Plume, cher Laurent Delmas, sont un tout petit peu jaloux peut-être, ou prudents. On est en 76.
Il y a deux thèses en présence, je crois, d'après les critiques que j'ai pu lire. Il y a ceux qui disent c'est sérieux, c'est consciencieux, c'est parfait, manque pas un bouton de guêtre, etc. Puis ceux qui disent c'est un petit peu ennuyeux, trop de téléphone. Enfin, je pense à notre ami Jean de Baroncelli, par exemple. À ma gauche, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Talonnet ou Michel Simon ?
Je trouve que c'est tout à fait remarquable, à cause justement des conditions que s'est posé le réalisateur au départ, c'est-à-dire de ne pas dramatiser, de ne pas ajouter d'éléments extérieurs et de nous raconter strictement ce qui arrive à ces deux journalistes quand ils essaient de découvrir la vérité sur une affaire dont ils n'ont pas la moindre idée. Et alors je dis d'entrée de jeu que ce qui m'a le plus intéressé, c'est de voir enfin des journalistes qui font leur métier au cinéma, alors que nous avons vu dans des dizaines de films, en fait, journalistes, des personnages complètement farfelus, toujours dans des voitures de sport et dans des divans profonds, on se demande toujours où ils font leurs enquêtes et quand ils écrivent leurs papiers.
Je crois que les raisons, c'est entre autres que le fait que l'on connaisse en plus ce qui se passe après, c'est-à-dire la démission de Nixon, rend le spectateur est au courant alors que les héros ignorent ce qui va se passer, ce qui rend la chose encore plus tragique. C'est le propre même de la tragédie. Le sujet, c'est Woodward et Bernstein, comment ils travaillent, comment ils arrivent à une vérité, à démasquer une vérité. Et là, je trouve que le film est absolument remarquable, et c'est aussi un exercice de cinéma époustouflant, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que pendant 2h15, justement, de filmer des téléphones, des téléscripteurs, des machines à écrire et des conversations. Mais ça m'a intéressé de voir, parce que j'étais au Festival de Berlin où le film a été montré, il y a eu une conférence de presse. Il y a un jeune critique très politisé, d'extrême-gauche, qui a dit « Mais enfin, écoutez, monsieur, vous avez fait un film, tout de même, qui montre que deux journalistes peuvent venir à bout du président des États-Unis. C'est une propagande insensée. » Et Pakula a dit « Écoutez, monsieur, si ce scénario m'avait été proposé, c'est un scénario de fiction. J'aurais refusé de le faire parce que cela m'aurait semblé une chose absolument incroyable.
Utopique.
Mais que voulez-vous ? C'est la réalité. »
Voilà, Laurent Delmas, en 76, vous l'auriez critiqué comment, ce film ?
Ben, je trouve que ce qui se dit n'est pas idiot, hein, franchement.
Non.
C'est pas pour, par esprit de solidarité avec mes petits collègues de l'époque, mais non, je trouve que leur vision est assez juste, notamment dans la façon qu'ils ont de dire, on a le filmage d'un travail de petit gris bureaucratique, presque, hein. C'est-à-dire, ça, c'est très vu. C'est ce qu'on disait Eric Rochant tout à l'heure. C'est vrai que c'est beaucoup de téléphones, beaucoup de télés, beaucoup de choses. C'est quelque chose que moi je retrouve par exemple dans Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack, c'est-à-dire qu'il y a une démythification et du travail de journalisme et du travail de l'investigation. C'est dur, c'est pénible, faut tout croiser, ça n'a rien à voir avec une sorte de chevauchée fantastique dans l'univers du vrai.
C'est pas drôle ce boulot en fait. Hein.
Lucas, il y a des côtés difficiles.
Ouais, et pourtant c'est ce qui a suscité des vocations et notamment celle de Bruno Patino, vous nous le disiez, ou de cinéastes comme vous, Éric Rochant. Terminons là-dessus sur le contexte politique. Vous aviez commencé à l'évoquer, la guerre du Vietnam, la campagne de désinformation qui l'a accompagnée, qui sont passées par là. Quel impact ce film va avoir sur la société américaine et peut-être plus largement sur le cinéma américain des années 70 ?
Sur la société, il sort d'abord en pleine campagne présidentielle, enfin aux États-Unis, et dans la campagne entre Gerald Ford et Jimmy Carter. Donc il a été à l'époque perçu comme ayant pu jouer un rôle à un moment donné dans l'élection du démocrate, donc de Jimmy Carter par rapport à ça. Je pense que il participe ensuite, si vous voulez, dans l'univers des médias comme étant la matrice de l'enquête journalistique qui arrive à mettre à bas un pouvoir qui va pas. Et d'ailleurs, l'utilisation de Gate, j'appelle Watergate, c'est rien d'autre que le nom d'un immeuble près du Potomac à Washington, un immeuble assez banal d'ailleurs. Il s'appelle le Watergate, parce qu'on est tout proche de la rivière. Et du coup, maintenant, vous avez Gate à peu près dans toutes les enquêtes ou les scandales possibles. Donc ça montre que c'est devenu une référence, j'allais dire, un peu matricielle sur l'enquête qui révèle plus exactement le fait qu'un pouvoir ne s'exerce pas de façon éthique, morale ou suivant les règles. Donc je pense que ça a changé vraiment... Enfin, ça a donné une matrice journalistique, on va dire ça comme ça.
La matrice journalistique et la matrice cinématographique.
Oui, non, mais encore une fois, c'est un film qui s'inscrit dans le cinéma américain des années 70, qui est un cinéma du réel et qui est un cinéma politique. C'est-à-dire, c'est un cinéma, d'une certaine manière, qui s'est désigné un ennemi, qui est le pouvoir de Nixon, le pouvoir républicain, le pouvoir de l'ordre, le pouvoir qui exprimait la loi et l'ordre. Hein, c'était les slogans de Nixon, et ça, ce pouvoir-là, et donc et aussi la guerre du Vietnam, hein, c'est quelques années après 69, après Woodstock, et après en fait la grande vraiment la révolte des jeunes contre la guerre du Vietnam. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence aujourd'hui. En fait, moi, le Vietnam, j'aurais envie que le Vietnam soit aux États-Unis ce que l'Ukraine est à la Russie, malheureusement, enfin plutôt le contraire. La guerre en Ukraine n'est absolument pas une guerre du Vietnam pour la Russie et pour les Russes et pour les jeunes Russes et pour le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas... Mais c'est aussi parce que la Russie, ce n'est pas une démocratie. En fait, c'est un cinéma politique, politisé et révolté. Et donc, c'est pourquoi ça m'a... Quand j'étais jeune, quand j'étais un adolescent, ça m'a beaucoup touché. Mais c'est aussi un cinéma de la démocratie.
Merci beaucoup, Éric Rochant. Merci mille fois, Laurent Delmas. Merci mille milliards de fois, Bruno Patino. Merci vraiment à tous les trois.
Merci à vous.
Merci.
Quel est le sujet ce soir ?
L'enculade de rat.
où voir les hommes du président d'Alan Pakula? Peut-être sur la Cinéthèque, la plateforme des cinéastes, la plateforme indépendante. Il est recommandé par le cinéaste Todd Haynes et vous pouvez le louer donc sur la Cinéthèque. Merci beaucoup à Félicie Faugère qui a réalisé cette émission. Merci mille fois à Sophie-Catherine Gallet qui l'a préparée et programmée et à Audrey Guélil qui était aujourd'hui à la technique. Merci à toutes les trois. Émission à réécouter sur radiofrance.fr.